de passage à Lourdes. De passage à Lourdes.
Père Jean-Yves Ducournau, bonjour.
Bonjour.
Dans les milieux dans lesquels vous êtes envoyé, on vous appelle Padré, je crois.
C'est cela, oui.
Parce que vous êtes, moi je le vois, un prêtre en treillis.
Oui.
Voilà, tout est dit. Aumônier militaire. Bon, on ne va pas énumérer par le détail tout ce que vous avez pu faire dans le cadre donc de cette mission d'aumônier militaire. Je signale, soit dit en passant, que vous êtes prêtre de la mission de Saint-Vincent de Paul.
Exact.
Et vous avez été auprès de la Légion, auprès des services de santé dans le cadre de l'armée. Vous êtes aujourd'hui à Saint-Mexan, une école militaire,
oui.
Des sous-officiers.
Oui.
Bon. Un baroudeur, est-ce qu'on pourrait dire ça?
Oh, je me suis un peu calmé, mais bon, je l'étais, oui. J'ai laissé un peu la place aux plus jeunes.
Oui. Encore que vous avez de l'énergie, quand vous êtes entré dans ce studio, on a vu que vous aviez encore de la pêche, même si vous me disiez « Oh, je suis fatigué, j'ai beaucoup de choses à faire ». 11e livre, vous écrivez. Oui. Alors vous écrivez la nuit, puis vous êtes aumônier le jour.
J'écris la nuit, le jour, je suis aussi aumônier la nuit.
Oui.
Aussi.
Aussi.
Ben oui.
Vous en faites trop peut-être, père?
Non, je fais à la mesure de ce que je peux faire, je pense. La grâce de Dieu aidant, comme aimait à le dire Saint-Vincent de Paul.
Dieu dans les tranchées.
Oui.
Voici le dernier livre, le 11e donc, qui paraît aux éditions des Béatitudes. Et là, oui. Vous vous êtes dit, vous allez peut-être me corriger, quand même, osons le sujet de Dieu dans ce cadre de la guerre, de la grande guerre terrible, où vraiment, théâtre de souffrance, plaie ouverte, horreur. Comment Dieu peut-il être présent dans les tranchées?
Dieu est présent auprès de tous ceux qui souffrent. Donc à partir du moment où des hommes sont envoyés dans les tranchées en boucherie humaine, Dieu se fait présent. Ce n'est pas un Dieu, le Dieu que nous aimons, que nous adorons, n'est pas un Dieu qui fait la guerre, ce n'est pas un Dieu de la guerre, mais c'est un Dieu dans la guerre, c'est-à-dire un Dieu qui accepte par pauvreté, par humilité même, de se faire le plus petit d'entre nous pour accompagner tous ceux qui sont au fond des tranchées, dont la foi vacille ou dont la foi n'existe pas même d'ailleurs, pour montrer à chacun, par l'intermédiaire de ces soldats de Dieu, que j'appelle les aumôniers militaires, de tous les cultes d'ailleurs, hein, puisqu'il n'y a pas eu que les catholiques, ces soldats de Dieu qui étaient envoyés sans armes pour la plupart, sauf ceux qui étaient mobilisés comme soldats, pour témoigner de cet amour de Dieu dans la guerre, dans la souffrance, dans la misère, montrer que ces personnes-là n'étaient pas toutes seules, n'étaient pas abandonnées, mais que Dieu se faisait finalement l'un d'eux, comme le Christ s'est fait l'un de nous dans sa pauvreté d'être humain.
Vous avez prononcé ce mot « boucherie ».
Oui.
Inévitablement, vous êtes toujours interpellé, vous, l'aumônier, le padré. Comment est-ce possible que Dieu... comment peut-il accepter ça? Et vous qui avez travaillé sur ce sujet de la Grande Guerre, voilà, vraiment, l'Europe était à feu et à sang.
Oui.
Comment alors, Dieu peut-il être là?
Dieu est là, ça ne veut pas dire pour autant qu'il accepte. C'est-à-dire que Dieu met dans le cœur de chaque être humain le libre arbitre.
Oui.
Mais le libre arbitre, le problème, c'est que on peut effectivement se laisser envahir par les forces du mal, n'ayons pas peur de dire le mot, par le démon, par le diable. Jésus l'appelle par son nom, justement, par l'adversaire, c'est-à-dire celui qui est devant nous, qui nous veut du mal, qui veut entrer dans notre cœur et nous détruire, et détruire ce libre arbitre, pensant faire justement son travail de destructeur. Eh bien, il va contre Dieu. C'est pour ça, l'amour est la qualité première de Dieu. La haine, la destruction, c'est le bagage premier du diable. Donc, il y a un affrontement. Nous savons par notre foi de baptiser que le Christ est victorieux de la mort en étant lui-même tué. C'est paradoxe suprême. Mais donc à partir de là, effectivement, nous comprenons que le combat, puisque c'est un combat, Saint Paul rappelait que la foi est un combat, donc effectivement, il y a un combat des forces des ténèbres qui sont présentes dans ce monde, qui sont sous la domination du prince de ce monde, comme Jésus appelle le diable, Mais nous savons que la victoire est assurée, c'est-à-dire que l'amour, la paix, la liberté et la fraternité seront victorieuses un jour ou l'autre. C'est notre foi, c'est notre espérance, et nous vivons cela dans la charité, justement, avec tous ceux qui participent à ce combat de la foi. Le militaire, pour faire bref, le militaire n'est pas un assassin, n'est pas un meurtrier. Il n'y a pas de prédestination à tuer non plus. Le militaire est capable d'aller jusqu'au bout parce qu'il reçoit une mission qu'il dépasse, qui vient du monde politique. Le militaire, en fait, c'est le bras armé de la politique, mais ce n'est pas le militaire qui prend la décision de faire la guerre. C'est le politique, dans son désir de puissance, dans son dévoiement aussi, parfois, qui entraîne le péché des hommes.
Le risque que vous prenez avec ce livre « Dieu dans les tranchées », c'est d'alimenter la thèse de ceux qui disent « les guerres, c'est toujours mis en œuvre par la religion ». Voilà. Au fond, ça devient pratiquement la religion, quelque chose qui nous conduit à la guerre, au combat. Mmh. Et donc, il y a une forme d'instrumentalisation qui se fait de Dieu.
Certainement, il y a effectivement des personnes qui se servent du nom de Dieu pour assouvir leur pouvoir, leur domination, leur désir de domination, en lisant la parole de Dieu selon leur désir, pour arriver à leur fin. Effectivement, donc la religion en ce sens-là peut devenir non pas une religion, mais une idéologie religieuse, qui est plus politique qu'autre chose, et qui se sert du nom de Dieu. Dieu, on lui fait dire ce qu'on veut quand on fait la guerre. Mmh. Et on met Dieu de son côté, et si on met Dieu de son côté, ça veut dire que l'autre, automatiquement, l'ennemi, il n'est pas avec Dieu. Donc on peut le détruire, on peut l'écraser, puisque de toute manière, il est infidèle.
Mmh. Et donc vous voulez, à travers ce livre aussi, montrer que Dieu est là et Dieu n'est pas l'instrument de cette guerre.
Absolument. Dieu n'est pas le Dieu de la guerre, même si les anciens, les Hébreux parlaient de Dieu Sabaoth, c'est-à-dire le Dieu de la guerre en quelque sorte. Mais souvenons-nous que le peuple hébreu, chaque fois qu'il brandissait effectivement l'Arche d'Alliance, mais que le cœur des Hébreux n'était pas lié, n'était pas en communion avec Dieu, ils perdaient. Donc Dieu n'est pas le Dieu de la guerre. Il ne cautionne pas les guerres. Par contre, ce qu'il demande, c'est que le combat intérieur, le combat spirituel, se fasse effectivement, puisqu'il y a un combat, et lui, il est notre roc, il est notre bouclier, il est notre arme de lumière pour combattre les armes des ténèbres. Mmh. Donc il se met effectivement avec nous dans le combat, à condition que ce combat soit juste, c'est-à-dire qu'il soit le combat qui relève le plus faible, qui relève le plus pauvre, qui relève le plus fragile, pour le mettre en situation d'être humain digne et reconnu comme tel.
Au cours de vos recherches, pour écrire ce livre où il y a des lettres, il y a des témoignages, il y a donc des éléments qui permettent d'étayer en quelque sorte, de charpenter ce livre, est-ce que vous avez trouvé au milieu de ce qui est le mal, la guerre, des gens de bien ?
Oui, des gens de bien, il y en a des deux côtés du rideau de guerre. Ce n'est pas parce qu'on se fait la guerre.
En l'occurrence, pour la Grande Guerre, chez les Allemands comme chez les Français.
Absolument. Il y a le témoignage d'un échange de courrier, d'un échange épistolaire entre une épouse qui est chez elle, donc en province, qui écrit à son soldat poilu, donc français, dans les tranchées, et elle participe un petit peu à cette mouvance qui déshumanise l'ennemi, en disant bon voilà, les Prussiens, les Allemands, les Boches, etc., ce sont des bêtes immondes, donc c'est normal qu'on les combatte, c'est normal qu'on les élimine.
Elle écrit ça à son mari. Et dans les tranchées.
Et si je peux me permettre de lire un extrait.
Quelle est la réponse du mari ?
Et voilà, quelle est la réponse du mari alors que le mari combat ? Il est au fond des tranchées, au milieu des rats, de la boue, de la solitude. Et il écrit, il répond à son épouse. Donc nous sommes en octobre 1915. « Chère petite aimée, je suis fort surpris de t'entendre parler comme tu le fais au sujet des Prussiens, toi qui as du cœur. Certes, ils ne sont pas tous bons. Si tu voyais les maisons où ils passent, moi-même, tout en étant habitué, j'en frissonne d'horreur, et le cœur me saigne en pensant aux pauvres ouvriers qui ne retrouveront rien de tout ce qui est leur unique avoir. Mais il y a des Français qui sont aussi lâches, car ils finissent tout ce qu'il reste. Ne dis pas ces mauvais Allemands. Certes, ce sont eux qui sont la cause de nos souffrances, mais ils sont forcés par les chefs qui les contraignent à la faire. Mais les chefs du pouvoir ennemi, eux, oui, sont maudits par les hommes et nous-mêmes. Mais ces pauvres pères de famille, nous en avons fait prisonnier un l'autre jour qui a 8 enfants en bas âge, ces adolescents de 17 ans que l'on envoie sur le champ de bataille, ces jeunes maris qui laissent une femme aimée au pays, ceux-là ne doivent pas s'appeler les maudits, car ils ont coûté bien des larmes à leurs mères qui ont tant peiné pour les élever et qui ont coûté aussi cher que nous à mettre au monde. D'ailleurs, le bon Dieu qui est bon, ne les aime-t-il pas tout autant que nous? Il ne nous a pas créé de race inférieure à l'autre, et nous sommes tous aussi chers à son cœur. »
Il écrit ça du fond de la tranchée.
Voilà. Donc, il réhumanise la guerre. C'est-à-dire que bon, il redonne cette dignité à celui qui est en face, qui est un être humain, qui a son histoire, sa famille, ses idées aussi, sa patrie, sa notion de patrie. Voilà. Donc à partir de là, effectivement, ce sont peut-être les soldats eux-mêmes et toujours aujourd'hui les soldats eux-mêmes qui prennent peut-être davantage conscience que le monde politique de la dignité de l'autre.
Nous allons nous arrêter quelques instants, Père Jean-Yves Ducournau. Juste après, nous reprenons avec vous cette conversation autour de votre livre « Dieu dans les tranchées » paru aux éditions des Béatitudes. À tout de suite.
Tout de suite.
Présence.
Dans l'émission Témoins, qu'ils soient laïcs ou religieux, des chrétiens témoignent de leur rencontre avec le Christ et nous racontent cet instant qui a changé leur vie. Ils partagent ainsi leur joie de croire et annoncent avec leurs mots cet amour que nous sommes tous appelés à vivre.
Témoins sur Radio Présence, tous les lundis à 11h.
De passage à Lourdes. De passage à Lourdes.
Merci Père Jean-Yves Ducournau de prendre un peu de temps pour nous, pour
avec
nos auditeurs,
plaisir.
Pour nous parler de votre 11e ouvrage,
oui.
Vous qui êtes aumônier militaire, vous avez écrit sur votre saint patron, d'une certaine façon,
oui.
Saint Vincent de Paul. Vous oui. avez écrit sur vos expériences aussi d'aumônier militaire. Je pense à ce livre, Les cloches sonnent aussi à Kaboul.
Oui.
Sur votre vie personnelle, lorsque vous écrivez sur votre enfance.
Oui, un témoignage un peu particulier, oui,
sur
l'enfance maltraitée.
Voilà, c'est votre histoire aussi.
J'ai fait ce livre à partir d'un constat de l'ONU sur l'enfance maltraitée. Ça, et comme illustration, effectivement, j'ai donné mon propre témoignage préfacé par Tim Guénard.
Et celui-ci, cet ouvrage, c'est Dieu dans les tranchées, aux éditions des Béatitudes. Vous vous êtes dit, cette commémoration de la Grande Guerre, est-ce qu'elle parle un peu de Dieu? Oui ou non? Et là, vous vous êtes dit, mais non, donc je vais le faire.
Voilà. Je crois qu'il faut rendre à Dieu tout son honneur. Et malgré la laïcité parfois combative de notre République, Dieu est présent dans le cœur. Donc, et Dieu était présent dans les tranchées, Dieu était présent même sur le vêtement des poilus lorsque certains avaient sur leur redingote bleue gravé la médaille de la Vierge Marie ou le Sacré-Cœur aussi qui était brodé, qui était cousu sur le revers de la veste. Il y avait donc cette certitude que Dieu ne pouvait abandonner ceux qui étaient dans la détresse humaine.
Mais certains se disaient, Dieu est avec moi, donc je vais remporter la victoire.
Oui.
Ça, c'est l'instrumentalisation.
Ça, c'est l'instrumentalisation. Mais là, bon, la plupart des lettres qu'on a pu lire et que j'ai pu insérer dans ce livre, y compris avec le chemin de croix que j'ai écrit dans ce livre, montrent que la plupart des soldats n'instrumentalisent pas Dieu. Voilà. Il lui donne toute sa place. Dieu comme Père, Dieu comme celui qui aime, celui qui accueille aussi, celui qui accueille celui qui se fait tuer, évidemment, celui qui soutient le blessé. Ce n'est pas un Dieu politique, ce n'est pas un Dieu de la guerre, c'est un Dieu qui se fait proche, tout simplement. Et c'est cela que j'ai voulu redonner un petit peu à travers ce témoignage, à travers cette présence humble des aumôniers. L'image de Dieu a été portée jusqu'au bout du témoignage humain de certains aumôniers, par exemple, bon, quel que soit le culte. Par exemple, j'évoque le rabbin israélite qui est appelé au chevet d'un catholique sur les tranchées et qui apporte un crucifix pour que celui-ci puisse embrasser le crucifix avant de mourir. Et ce même rabbin sera tué dans ces circonstances-là. Donc, voilà, il y a un Dieu d'amour, voilà, il n'y a pas un Dieu sectaire, et il n'y a pas un Dieu politique, il y a un Dieu père, un Dieu amour, un Dieu qui aime, voilà. Et l'aumônier est chargé dans la difficulté, dans le sang, dans la boue, dans la solitude, dans la fatigue, de porter ce Dieu-là. Voilà.
C'est un livre où vous répondez à la question « Et où est Dieu dans tout ça ?» d'une certaine façon, avec de l'aide, du témoignage. Il y a aussi de la prière dans votre ouvrage.
Oui.
Ce chemin de croix, comment vous l'avez constitué? Comment peut-on écrire un chemin de croix au milieu de cette boucherie? Vous l'avez prononcé vous-même, ce mot.
Dans tous les livres que j'ai écrits, j'ai voulu faire... D'abord, c'est des livres sur l'espérance. Tous mes livres que j'ai pu écrire sont des livres sur l'espérance.
Oui, il y a la 14e station de la résurrection.
La 15e.
La 15e, pardon.
La 15e station. Oui. Voilà. Mais bon, tous les livres ont ce point commun, c'est, même si c'est des sujets difficiles, des sujets de souffrance, des sujets de misère, des sujets de mort, c'est l'espérance qui domine. C'est une vertu, c'est une force et qui doit mouvoir tous les chrétiens, et puisque ça fait partie de notre témoignage, d'espérer. Mais à partir de là, effectivement, prier avec les mots même de ceux qui ont connu cette solitude, cette boucherie humaine, me semblait justement pertinent dans ce monde où effectivement il y a encore des situations difficiles, des situations délicates, des situations où on abuse du nom de Dieu. Et je pense que la guerre de 14 n'est pas si loin que ça. Certes, ça fait 100 ans. Pour les jeunes qui ont 20 ans, c'est de la préhistoire presque. C'est dans le livre d'histoire, c'est tout. Il n'y a plus de survivants, il n'y a plus. Mais pour non, il faut prendre acte que ce sont nos anciens, hein, et qui ont des mots à dire pour aujourd'hui. Nous n'avons pas d'avenir si nous n'avons pas de passé. Donc, et le chrétien, c'est pareil. Le chrétien, il se plonge dans une histoire, dans une tradition. Et bien sûr, il se plonge à la racine sur la parole de Dieu, effectivement, puisque c'est sa racine spirituelle mise en acte dans la charité, effectivement dans les sacrements. Mais aussi, il y a cette tradition de l'Église et cette tradition de l'Église misérable, de l'Église dans la gadoue, dans l'Église dans le sang des tranchées. C'est aussi ça. Et ces aumôniers et ces militaires ont un mot à nous dire pour aujourd'hui, pour fortifier, pour confirmer notre foi. Et il est heureux que, justement, nous continuions ce centenaire de la guerre jusqu'au 11 novembre, et puis ici, au pèlerinage militaire international, où justement des militaires ont fait un chemin de foi pour arriver au baptême, à la communion, à la confirmation, avec les mots de la tradition de l'Église, les mots des pères, mais aussi les mots aussi de leurs anciens.
Nous aurons l'occasion de reparler avant la fin de cette émission du pèlerinage militaire international. Vous publiez également les mots du pape de l'époque de la Grande Guerre. Oui. Que dit-il, le pape, sur tout ça?
Alors,
ce
le pape Benoît XV est un pape clairvoyant. Sa situation n'était pas facile. Il est arrivé au début de la guerre, puis 17 ans décédé juste au tout début, en août 14 ou juillet 14, peu importe. Mais donc Benoît XV est arrivé, et donc tout le monde avait mis un petit peu d'espoir dans ce pape en disant, en fait, d'un côté comme de l'autre, il va prendre position. Le pape n'a pas voulu prendre position. Il savait qu'il avait des baptisés des deux côtés. Donc, il se place comme, non pas quelqu'un de neutre, mais quelqu'un qui agit pour la paix, pour la paix de tous. Donc effectivement, en prenant parti, il ne pouvait pas prendre parti pour l'un. Donc il a accepté d'être considéré par les uns comme le pape Bosch, par les autres comme le pape François. Il a accepté ça jusqu'au bout. Mais il a été, il a pris cette parole de Jésus, qui m'a institué pour être le guide de vos partages. Donc Jésus qui dit ça. Donc le pape se place en tant que vicaire du Christ au-dessus de cela. Ça ne veut pas dire qu'il se déconnecte de la réalité.
Et il condamne la guerre.
Il condamne la guerre. Et la guerre est pour lui... De toute façon, il est dans la tradition ecclésiale qui, par exemple, le pape Nicolas Ier au 9e siècle qui disait que la guerre est satanique. Voilà. Et on est toujours dans cette théologie-là. Hein, le pape condamne la guerre, effectivement, et est un homme de paix. C'est la journée mondiale de la paix, elle date du pape Benoît XV, et aussi étonnant que cela puisse paraître, la journée de la prière pour les migrants aussi. C'est-à-dire que le pape Benoît XV, cette journée qui existe toujours, le pape Benoît XV a mis en œuvre ça, parce que les migrations, les exodes, etc., ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc effectivement, il a fait cette journée de prière, et cette journée mondiale de prière pour la paix aussi. Et lorsque la paix, l'armistice est enfin arrivé, qui n'était pas une paix telle qu'on pouvait l'espérer, puisque c'était une absence de guerre pendant 20 ans, puisque ça a recommencé. Pourquoi ? Parce que le pape dénonçait que la paix était tronquée, parce que l'ennemi, à la table des négociations, les vainqueurs, les alliés, ne voulaient pas de la présence de l'Allemagne ou voulaient lui faire subir ce traité. Sous peine d'être envahi. Donc à partir de là, pour le pape Benoît XV, la prière continuait avait toute sa valeur justement pour que cette paix soit vraie. Bien sûr, on n'efface pas ce qui s'est passé, mais on construit à partir de ce qui s'est passé. On construit dans l'espérance, on construit dans le pardon, on construit dans la fraternité. Mais on n'écrase pas le vaincu. Une paix qui écrase le vaincu, c'est pas une vraie paix. Et le pape ne cessera dans des encycliques successives, en 1919, 1920, de rappeler cela. De rappeler que la paix des cœurs ne peut pas être une paix qui écrase. Une vraie paix ne peut pas être une paix qui écrase l'ennemi battu, le vaincu.
Vous publiez des textes de Benoît XV
dans ce livre,
voilà, avec aussi des lettres.
C'est un grand monsieur, c'est un grand pape. Je l'ai découvert effectivement. Bon, on le connaît. Je le connaissais pas plus que ça, mais c'est vrai que c'était un contemporain de cette grande guerre et il a montré cette pertinence de la prière et de l'action pontificale jusqu'au bout.
Les quelques minutes qui nous restent, on va les consacrer au pèlerinage militaire international. Vous y venez chaque année, pratiquement ?
Oh oui, ça fait, je ne sais pas combien j'en ai fait, mais sauf les années où j'étais en opération. Mais sinon, depuis que je suis à l'école de Saint-Mexant, je viens effectivement chaque année. Oui.
C'est impressionnant de voir toutes ces armées représentant des dizaines de nations, ici à Lourdes, au pied de la Vierge, au pied de la grotte. Il y a la grotte.
Comme quoi on peut être chrétien et soldat. Mais c'est une question effectivement qui peut rejaillir en disant le chrétien, le soldat, il a quand même une arme, il contrevient il peut contrevenir.
Ils sont tous sans armes à Lourdes.
Oui, mais je veux dire, on vient se confier dans la fraternité, dans la spiritualité, dans la prière commune, même si on n'a pas les mêmes mots pour prier, c'est quand même une prière commune, c'est quand même beau. Et dans la joie, dans la musique, la contemplation, dans aussi la réconciliation, parce que c'est une démarche importante, puisque initialement le pèlerinage militaire, c'est d'abord un pèlerinage de réconciliation entre Français et Allemands au départ. Il y avait déjà ce désir après la Première Guerre mondiale de trouver ce sens, et la Notre-Dame de Lourdes était présente déjà dans la prière des aumôniers militaires, la prière pour les blessés des dates de la guerre de 14. Et donc en fait c'est très beau de voir ça, mais c'est vrai que ça nous oblige à témoigner de la charité qui doit dépasser effectivement le lieu de cette joie, de cette convivialité. C'est après, il faut la mettre en œuvre là où nous sommes. C'est ça le sens. Le pèlerinage n'a de sens que si les fruits que nous amassons ici, eh bien, on les fait fructifier, ou les semences que nous amassons ici, on les fait fructifier ailleurs et au milieu d'autres, au milieu de ceux qui n'ont pas partagé, qui ne partagent pas la même foi, et même les personnes civiles aussi qui ne partagent pas la même foi, et aussi ceux qui nous disent tu peux pas être chrétien et soldat parce que tu es capable de tuer, etc. Bon, voilà. Là, nous trouvons des réponses à tout cela. La grâce de Dieu aidant. Et Marie aussi.
Et ce monde en a bien besoin de ces acteurs de paix, quand on voit qu'il est quand même à feu et à sang.
Absolument.
Vous parlez de la Grande Guerre, et aujourd'hui encore.
Il y a toujours des guerres, même si elles sont peut-être plus sournoises, ou parce que la guerre contre le terrorisme n'est pas une guerre, je dirais, traditionnelle, puisqu'il n'y a pas de déclaration de guerre. Autrefois, les déclarations de guerre, via les ambassadeurs, il y avait quelque chose d'officiel, une espèce de politesse de la guerre, qui faisait que, on entrait officiellement, on déclarait la guerre. Bon, là, c'est beaucoup plus sournois, beaucoup plus caché, beaucoup plus. Plus difficile parce qu'il n'y a plus de frontières. Et le Saint-Père parlait, le Saint-Père François, le pape François parlait d'une troisième guerre mondiale morcelée, parce que c'est vrai que le monde n'est pas réduit à notre Occident, on voit bien. Donc soyons vigilants et demandons effectivement le secours de Notre-Dame de la Paix.
Voilà. Ce livre s'intitule « Dieu dans les tranchées ». Hein, le père Jean-Yves Ducournau en est l'auteur. Aux éditions des Béatitudes. Merci beaucoup pour cette rencontre.
Merci à vous de votre invitation.
Et puis on vous souhaite bon pèlerinage et bien sûr bon vent pour la suite. Au revoir, Père.
Merci, monsieur. Au revoir.
Présence, présence.
De passage à Lourdes.
Présence.
Pour être une présence auprès des personnes seules, pour vous accompagner pendant votre petit déjeuner, en voiture ou au milieu de la nuit, pour donner la parole aux acteurs de l'Église de notre région, Radio Présence a besoin de vous.
Soutenez Radio Présence. Envoyez vos dons à Radio Présence, 4 rue des Feuillants, 31300, Toulouse.
Présence.
Thank you. du monde entier.